Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Universitaire, romancier, essayiste, critique littéraire et homme politique égyptien du XXe siècle, Taha Hussein donne une idée magnifique de ce que l'Égypte a pu produire comme penseur important. Né dans une famille de 13 enfants, si pauvre qu'elle n'avait pas les moyens de le soigner, Taha Hussein devint aveugle à l'âge de 3 ans. C'est à Paris, à la Sorbonne, qu'il soutint sa thèse et rencontra son épouse, Suzanne, avec laquelle il vécut un très grand amour toute sa vie et qui écrivit un livre superbe après la mort de son mari. Intitulé « Avec toi de la France à l'Égypte, un extraordinaire amour », ce livre est publié aux éditions du Cerf. Traducteur de Sophocle, Taha Hussein pensait que la seule façon pour l'Égypte d'être totalement indépendante et émancipée était de se saisir de toute son histoire. Pour lui, comme l'écrit Henri Laurence, l'Égyptien Taha Hussein explique que la revendication méditerranéenne est une revendication de libre accès à la culture européenne et en dehors d'un cadre de domination, et qu'il nous faut donc avoir conscience que les Méditerranéens, au sens le plus large des termes, n'ont pas d'identité exclusive, donc meurtrière, mais une pluralité d'origines qui font des intériorités communes et partagées. Écrivain de toute première importance, Taha Hussein est l'auteur d'une quinzaine de livres et, entre autres, de « L'avenir de la culture en Égypte » ou encore de « Au-delà du Nil » traduit par Jacques Berck et André Miquel et du « Livre des jours » préfacé par André Gide. L'œuvre de Taha Hussein est à redécouvrir absolument par quiconque veut penser une véritable modernité. Car comme l'écrivait Jacques Berck, rien ne peut empiéter sur sa liberté acerbe. Écrivain, professeur, journaliste, opposant politique ou ministre, sans trêve, il convoque son peuple aux Lumières, les Arabes à des retrouvailles méditerranéennes, l'Orient et l'Occident à s'échanger. Taha Hussein s'est éteint en 1973, à l'âge de 84 ans. Dans cette émission datant de 1974, Maurice Couve de Murville et Jacques Berck lui rendent un flamboyant hommage.
À l'automne dernier, le dimanche 28 octobre, mourait au Caire à l'âge de 84 ans, Taha Hussein. C'était un écrivain égyptien et l'on peut dire le plus célèbre des écrivains arabes. Il se trouve que la veille, les Nations Unies lui avaient décerné leur prix des droits de l'homme parce que le docteur Taha Hussein avait eu une action considérable pour l'établissement d'un système d'enseignement général gratuit en Égypte. En France, il y a des ouvrages de Taha Hussein qui paraîtront prochainement en traduction. Nous ne connaissions jusque-là que deux des livres des jours, d'ailleurs réunis en un seul volume, le livre des jours, publié en 1947 avec une préface d'André Gide. Mais Taha Hussein avait publié de très très nombreux ouvrages, je crois plus de 70, dont un essai, Le miroir de la conscience moderne, et un avenir de la culture en Égypte qui restera, selon le professeur Berck, l'un des plus beaux textes prospectifs qui ait inspiré l'Orient. Et le professeur Berck, professeur au Collège de France et arabisant bien connu, auteur de plus de 15 ouvrages, parlera tout à l'heure de l'œuvre de Taha Hussein. Mais le docteur Taha Hussein, dont le gendre, M. Hassan El-Zayat, est le conseiller du président Sadat, eut aussi une activité politique. Et c'est grâce à lui qu'en 1950, plusieurs centaines d'enseignants français du secondaire sont allés en Égypte, à l'époque où M. Couve de Murville était ambassadeur de France au Caire. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez rencontré Taha Hussein?
Évidemment, quand j'étais ambassadeur au Caire, je dirais que Taha Hussein était une des grandes figures de la société égyptienne de l'époque. C'était une grande figure en lui-même, parce que c'était une personnalité égyptienne éminente. Et puis, il a été, pendant quelque temps, dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a eu une activité politique, puisque de 1950 à 52, si je me rappelle bien, il était ministre de l'Éducation nationale. Alors cela faisait beaucoup de raisons pour lesquelles j'étais très normalement en rapport avec lui. Et puis naturellement, il y en avait une autre. Et c'est que, en ce qui concerne le français, la langue française, la culture française, il était peut-être ce qu'il y avait en Égypte de plus représentatif. Ce qui m'a toujours frappé avec lui, c'est que, à la fois, la culture arabe et la culture française étaient pour Tahusen quelque chose de fondamental. C'était un nationaliste, comme on dit, pas du tout dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que c'était un patriote égyptien, très soucieux de l'indépendance de son pays, pour qui, évidemment, cette indépendance avait été conquise sur nos voisins britanniques. Enfin, il était nationaliste, et d'ailleurs, quand il était au gouvernement, c'était un gouvernement waftiste, sous la présidence de Nahas Pashé, c'est-à-dire du parti et des personnalités qui avaient le plus milité pour l'accession complète de l'Égypte à l'indépendance. Et en même temps qu'un patriote et un national, c'était un homme extraordinairement cultivé dans le domaine arabe. Il était, je crois, je l'ai toujours entendu dire, le meilleur écrivain en arabe de son époque, en Égypte. Il a écrit d'ailleurs des livres traduits en français et qui sont excellents. Et en même temps, c'était probablement le meilleur connaisseur de la culture française. Il y avait là une sorte de double personnalité dans laquelle on ne ressentait nulle contradiction. Et je dois dire que c'est à cela que j'étais sensible le plus, parce que, en tant que représentant de la France dans ce pays, et même un peu dans cette région, naturellement, tout ce qui était culture, influence, prestige de la France m'était particulièrement sensible, mais je n'avais jamais considéré que quoi que ce soit qui pût exister à ce sujet fût en contradiction avec le très naturel souci de tous ces pays et de tous ces hommes pour l'indépendance et la dignité. Autrement dit, les deux choses se conciliaient parfaitement. Et Tahusen était en quelque sorte l'exemple vivant de cette possibilité, à mon avis, essentielle. Il en appliquait d'ailleurs les conséquences, puisque lorsqu'il a été ministre de l'Éducation nationale de l'Égypte, il a fait plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs ou de ses successeurs pour le développement de l'enseignement du français dans les écoles ou les lycées de son pays. Et encore une fois, pour lui, ceci n'était absolument pas en contradiction avec son sentiment national et avec son souci de renaissance de la langue et de la culture arabe. Au total, je crois qu'on peut dire que Tahusen a été un grand serviteur de son pays à tous égards et que l'œuvre qu'il aura laissée à l'Égypte aura été très utile, et c'était en même temps un grand ami de la France, suivant l'expression traditionnelle, mais cela dans le bon sens du mot. Et c'est à ce titre que, pour la France et pour les Français, son souvenir doit demeurer.
À mon fils. Et maintenant, toi aussi, mon fils, jeune comme tu es, tu vas quitter ton foyer, ta ville natale, ton pays, te séparer des tiens et de tes amis, pour traverser la mer et vivre seul à Paris une vie d'étudiant. Laisse-moi t'offrir ce récit. De temps en temps, quand tu seras lassé de l'étude, fatigué de grec et de latin, il te donnera peut-être quelque agrément, quelque repos. Tu trouveras dans ces pages un aspect de vie égyptienne dont tu n'as jamais fait l'expérience. Et tu te souviendras de quelqu'un qui, plus d'une fois, a puisé de la force dans ta présence. et trouver dans ta gaieté autant que dans ton sérieux une douceur à quoi rien ne se peut comparer. Vic-sur-Cère, juillet-août 1939.
C'est à vous, Monsieur Moniste à Haussagne, que s'adressaient ces quelques lignes du livre des jours de votre père que Jean Gastaud vient de lire. Voulez-vous nous parler de votre père ?
Eh bien, ces quelques lignes que je relis avec émotion, je me demande si, maintenant qu'il n'est plus là, je ne pourrais pas les appliquer à lui. Il dit : tu te souviendras de quelqu'un qui, plus d'une fois, a puisé de la force dans ta présence et trouvé dans ta gaieté, autant que dans ton sérieux, une douceur à quoi rien ne se peut comparer. Eh bien, moi aussi, tout le temps qu'il a été là, j'ai puisé beaucoup de force dans sa présence.
Mais comment se peut-il que votre père vous ait donné une telle gaieté et une telle force, parce qu'il a eu une enfance assez difficile en Haute-Égypte, et il a été frappé de cécité à l'âge de 13 ans. Donc sa vie n'a pas dû être facile, était-il si gai ?
Sa vie, comme vous le dites, n'a pas été facile, mais il avait une immense pudeur, et il n'évoquait pas, dans sa conversation de tous les jours et au sein de sa famille, cette enfance en effet tragique, cette cécité qui l'a frappé, non pas à l'âge de 13 ans, mais à l'âge de 3 ans. Il n'en parlait pas, et nous, par pudeur, nous n'en parlions pas non plus. Du reste, lorsque nous étions très jeunes, petits, dirais-je, ma sœur et moi, nous ne nous rendions même pas compte qu'il était aveugle. C'est là une preuve qu'il avait su, au cours des années, surtout durant ces années d'étudiant, je crois, vaincre merveilleusement cette infirmité, puisqu'elle ne nous apparaissait pas à nous qui vivions auprès de lui lorsque nous étions petits. Et j'ai souvent été frappé du fait que la plupart des visiteurs qui venaient à la maison repartaient en disant : nous n'avons pas eu l'impression de parler avec un aveugle, nous avions l'impression qu'il nous voyait et qu'il y avait comme une lumière, non pas dans ses yeux, mais sur son front.
Vous me racontiez un jour, M. Moniste à Haussagne, que vous reveniez de classe, vous étiez enfant, vous aviez un début de grippe ou quelque chose comme ça. Que s'est-il passé avec votre père ?
Ceci, c'est ce que j'appellerais un sens que Dieu lui avait sans doute donné pour compenser cette affreuse infirmité. En effet, je me souviens très bien de cette anecdote, dirons-nous. Je rentrais du lycée et sans doute, comme vous le dites, je couvais une grippe. Il m'a pris sur ses genoux, je devais avoir 7 ans. Il m'a caressé le visage et il m'a dit : mais qu'as-tu ? Tu es bien pâle aujourd'hui. Ce qui était vrai. Je me souviens également d'un souvenir amusant. Nous passions des vacances au Liban. Nous étions allés faire une promenade dans la montagne. Et nous sommes entrés dans un café. La radio diffusait un air chanté par un artiste alors très célèbre à l'époque au Liban. Et mon père, entendant cette voix, eut un moment de crispation et dit : mon Dieu, quelle terrible voix ! Cet homme doit être gros et chauve. Naturellement, nous avons ri, mais je voulais en avoir le cœur net. Et redescendu à Beyrouth, je suis allé chez un disquaire. J'ai cherché un disque de ce chanteur et sur la pochette, en effet, ce chanteur m'a apparu très gros et chauve.
Beaucoup d'hommes courageux, on dirait même héroïques, peuvent vaincre une infirmité pareille. Mais comment peut-on étudier comme il l'a fait, connaître tous les textes et avoir un bagage énorme en diverses cultures et civilisations ?
Il est bien difficile, je crois, de répondre à cela. Bien sûr, on pourra toujours dire que la mémoire chez un aveugle s'exerce constamment. Et mon père avait une mémoire prodigieuse qui a toujours fait l'étonnement de tous ceux qui l'ont connu. Il leur rappelait des faits qu'eux-mêmes avaient oubliés, des faits qui les intéressaient eux-mêmes et qu'ils avaient oubliés. Sans doute, il y avait cette mémoire qu'il avait développée. Il y avait cette volonté qui lui a permis de vaincre tous les obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie. Mais je crois qu'en fin de compte, il y avait surtout le génie, et là il est bien plus difficile de répondre.
Tel fut la vie de ton père quand il avait 13 ans. Et si tu me demandes comment il est arrivé au point où il en est aujourd'hui, comment sa mine est devenue acceptable de piteuse et misérable qu'elle était, comment il a pu préparer pour ton frère et pour toi la vie dont vous jouissez, facile et riante, comment il lui fut possible d'imprimer dans l'âme de bien des gens tellement d'envie et de haine et d'aversion, mais aussi de faire sur l'âme de beaucoup d'autres l'impression inverse d'approbation, d'estime et de sympathie. Si tu lui demandes comment il est passé de ceci à cela, je ne suis pas en état de répondre. Mais une autre personne est là qui peut le faire. Demande-le-lui. La connais-tu? Regarde vers elle. C'est cet ange qui se penche sur ton lit le soir pour que la nuit t'accueille dans le calme et dans la paix du sommeil, et le matin pour que le jour t'accueille dans la joie et l'épanouissement. N'est-ce pas à cet ange que tu dois le repos de la nuit et l'enchantement du jour? Cet ange, ô ma fille, s'est aussi penché sur ton père et il a changé en joie la misère de son âme, fait de son infortune un bonheur et de son désespoir une espérance. La dette de ton père envers cette fée n'est pas moindre que la tienne. Aidez-vous l'un l'autre, ma fille, à vous en acquitter. Encore que vous ne puissiez jamais arriver à en payer qu'une infime partie.
Ce texte est à la fin du premier livre des jours de Tao Sein. Il s'adresse, Monsieur Moïnis Tao Sein, à votre sœur. Cet ange, c'était votre mère. Elle était française.
Oui, c'est ma mère. Elle est française. Mon père lui doit beaucoup. Il le dit dans ces quelques lignes. Il l'a dit ailleurs. Il l'a dit oralement. Il n'avait même plus besoin de le dire, car finalement, tout le monde le savait, et c'était les autres qui le disaient. Elle l'a énormément aidé. Vous me demandiez tout à l'heure comment il a fait pour acquérir une culture aussi vaste et, dans certains domaines, une érudition incomparable. Elle fut, pendant des années, sa lectrice, sa secrétaire. C'était elle qui lui lisait tous ses textes. C'est elle, lorsqu'ils étaient fiancés, avant même d'être mariés, qui l'accompagnait aux cours, lorsqu'il était d'abord à Montpellier, ensuite à Paris. C'est elle qui lui a permis de passer ses examens en Sorbonne, car on lui faisait confiance, et quand ils étaient tous les deux seuls, enfermés dans une pièce, jamais personne n'a pu penser que ma mère tricherait.
Vous avez donc été élevé vous-même dans une double culture?
Oui, dans une double culture, française et égyptienne. Mais là encore, j'avais l'impression que cette double culture me venait, bien sûr, quand il s'agissait de la culture française, de ma mère, mais qu'elle me venait tout autant de mon père lorsqu'il s'agissait de la France que de la culture arabe.
Thank you.
Il ne savait rien encore d'El Hazar. Il n'avait pas la moindre notion de ce qu'il y trouverait. Mais il lui suffisait de frôler de ses pieds nus le sol de cette cour, de recevoir sur son visage la caresse de cette brise matinale, de pressentir enfin qu'autour de lui, l'université allait s'éveiller de sa somnolence, que son inertie ferait bientôt place à l'activité. Il reprenait conscience de lui-même, la vie lui revenait. Il était certain d'être dans sa patrie, au milieu des siens. Et il n'éprouvait aucune sensation d'isolement, aucune mélancolie. Son âme s'épanouissait de toutes parts, et de toutes les fibres de son être, il aspirait à découvrir. Quoi donc ? Une chose qu'il ne connaissait pas, mais qu'il aimait, vers laquelle il se sentait irrésistiblement attiré, la science. Combien de fois avait-il entendu ce mot et désiré en découvrir le sens caché ? C'était bien flou dans son esprit. Mais il était convaincu que la science était sans limite et que l'humanité y consacrait toute son existence pour n'en acquérir que de faibles éléments. Il voulait lui aussi y vouer sa vie tout entière pour cueillir le plus possible de ses fruits, si peu que ce fût. Son père, ainsi que ses savants amis qui venaient d'entretenir, avaient déclaré devant lui que la science était un océan sans rivage. Et l'enfant n'avait pas considéré que cette formule fût une métaphore ni une hyperbole, mais il l'avait prise à la lettre. Il était venu au Caire, à El Hazar, pour se plonger dans cet océan. Il en boirait ce qu'il pourrait, quitte à s'y noyer. Quelle fin plus belle pour un être d'une certaine noblesse que cette mort par la science. Magnifique plongeon dans l'au-delà. Toutes ces pensées assaillaient soudain sa jeune âme, l'envahissaient, la possédaient tout entière et lui faisaient oublier cette chambre affreuse, ses rues agitées et capricieuses, abolissaient même le souvenir des joies de la vie rustique. Elle lui donnait la certitude que ce n'était ni une erreur, ni une exagération que de se consumer d'amour pour El Hazar, tout en regrettant amèrement sa campagne. L'enfant marchait à côté de son compagnon et traversait la cour. Il mettait le pied sur cette petite marche qui marquait l'entrée de l'université. Alors son cœur se remplissait de modestie et d'humilité, mais son âme était gonflée d'orgueil et de fierté. Il cheminait à petits pas sur cette natte étendue, un peu usée, au point de laisser le sol apparaître par endroits, comme si les pieds des visiteurs devaient s'imprégner de la bénédiction qui s'attache à ce sol sacré. L'enfant aimait El Hazar, en cet instant où les fidèles achevaient la prière de l'aurore et s'en allaient, les yeux encore lourds de sommeil, former un cercle autour de telle ou telle colonne, attendant le maître qui leur ferait un cours de hadith, d'exégèse, de dogme ou de théologie. À cette minute, El Hazar était calme, et l'on n'y entendait point cette rumeur étrange qui dominait depuis le lever du soleil jusqu'à la prière du soir. On percevait à peine des chuchotements, une récitation du Coran faite d'un ton posé. Parfois, on surprenait un fidèle en prière, qui avait manqué la prière en commun ou qui, l'ayant accomplie, ajoutait une invocation surérogatoire. Ça et là, un professeur commençait son cours d'une voix engourdie, le ton de quelqu'un qui vient de s'éveiller, de faire sa prière et n'a pris aucune nourriture. Ainsi, son corps n'a encore ni l'énergie ni la force voulue. Il disait d'une voix tranquille, douce, légèrement chevrotante, « Au nom de Dieu clément, miséricordieux, louange à Dieu, maître des mondes, que sa bénédiction et son salut soient sur le plus noble des prophètes, notre Seigneur Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. » Voici ce que dit l'auteur, que Dieu ait son âme et nous fasse profiter de sa science. Amen. Les étudiants écoutaient la leçon avec la même apathie tranquille. Combien de fois l'enfant a eu l'occasion d'établir un parallèle entre la voix faible des tchèques à la leçon de l'aurore et leur belle assurance au cours de midi. Les voix de l'aurore étaient ténues et douces, avec un reste de sommeil. Les voix de midi étaient au contraire fortes, résolues, empreintes toutefois d'une certaine paresse, signe manifeste de rassasiement. Ils avaient ingurgité cette nourriture spéciale aux hazaristes de ce temps-là, des fèves et des salades ou des plats analogues. Il y avait dans le ton de l'aurore comme une supplication envers les vieux auteurs pour s'attirer leur bienveillance. Mais à midi, les voix partaient à l'attaque. On aurait cru qu'elles assaillaient des ennemis. Ce contraste émerveillait et amusait l'enfant. Il suivait toujours son compagnon, gravissait les deux marches par lesquelles on accédait au Liwan. Son compagnon l'installait près de la chaise magistrale, reliée par une grosse chaîne à une des colonnes bénies, et lui disait « Assieds-toi là, tu vas entendre une leçon de hadith. Lorsque mon cours sera fini, je reviendrai te chercher. » La leçon traitait des fondements du droit et son maître était le Cheikh Radi, que Dieu ait son âme. L'ouvrage commenté était le Tahrir de Kamal ibn Humam. L'enfant entendait ces mots qui le fascinaient. Il n'arrivait pas à démêler ses sentiments, il y avait de l'effroi et du désir, et sans doute du respect et de la vénération. Les fondements du droit. Que pouvait bien être cette science? Qui était donc le Cheikh Radi? Tahrir, que signifiait ce vocable? Kamal ibn Humam. Était-il un nom plus magnifique que ces deux-là? Le savoir était vraiment un océan sans rivage. Et il y avait tout profit pour un homme intelligent à s'y précipiter. La considération de l'enfant pour ce cours en particulier augmentait de jour en jour en écoutant son frère et ses camarades étudier la leçon avant de s'y rendre. C'était un texte singulier qui laissait dans son cerveau une douce impression. L'enfant n'en perdait pas un mot. Il aurait voulu avoir 6 ou 7 années de plus pour pouvoir comprendre, élucider les problèmes obscurs, résoudre les difficultés, bref, posséder le sujet à l'instar de ces jeunes gens déjà au courant, discuter avec ses maîtres comme le faisaient des étudiants entraînés. Mais pour l'instant, il devait se borner à écouter sans comprendre. Combien de fois avait-il ressassé la même phrase afin d'en pénétrer le sens intime? Il n'y avait pas gagné grand-chose, sinon le respect de la science, une profonde déférence envers les savants, le sentiment de son ignorance et la volonté de travailler d'arrache-pied. Il y eut une phrase surtout. Que de nuits sans sommeil, combien de journées perdues à chercher Dieu pour en témoigner. Il en négligea des cours où l'effort était superflu, car il comprit ses premières leçons sans aucune peine, et ce fait l'amena à délaisser les explications du Cheikh, afin de mieux réfléchir à ce qu'il avait entendu dire par ses étudiants distingués. Cette phrase, qui ne quittait plus son esprit et son cœur, était en réalité très bizarre. Il l'avait entendu à l'état de demi-veille, au moment où il allait s'endormir. Il l'avait retrouvé intacte le lendemain matin. C'était « La vérité est la destruction de la destruction ». Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Comment détruire la destruction? Que pouvait être cette destruction? Et enfin, comment la destruction de la destruction pouvait-elle être identique à la vérité? Cette phrase tournait dans sa tête comme un accès de délire dans la cervelle d'un fiévreux. Il en vint à bout grâce au traité des objections grammaticales de Kafraoui. Il put comprendre l'expression, en discuter, et il sentit alors qu'il commençait à goûter l'eau de cet océan sans rivage, l'océan de la science.
Professeur Berg, les livres de Taha Hussein nous apprennent sur l'Égypte des choses qui sont tout à fait inconnues. Il est dit quelque part que c'est le seul livre arabe sur une adolescence. Est-ce exact? Je parle des livres des jours.
Des livres traduits, vous voulez dire? Sur ce plan-là, on peut dire que ça a constitué une révolution littéraire dans le monde arabe. L'accès à la modernité d'un genre par ailleurs assez ancien. Beaucoup d'Arabes de toute époque ont parlé de leur enfance, mystiques, poètes et autres. Mais Taha Hussein l'a fait d'une façon entièrement moderne, et c'est justement cette alliance de profonde authenticité, je ne peux pas éviter le mot, je le regrette, car nous aurons peut-être à le répéter, et de modernisme, et qui caractérise à mes yeux cette œuvre. À aucun moment de cette œuvre, nous ne trouvons que fasse défaut l'une ou l'autre de ces deux catégories essentielles et nécessaires, l'authenticité et l'ouverture à la modernité.
Il y a une chose étonnante pour nous qui sommes ici, c'est que la loi est de descendre vers le nord. d'aller au Caire pour s'instruire. La descente vers le nord est une donnée géographique qui est peu commune pour nous. Et Tausheim raconte qu'il est instruit à El-Azhar. Qu'était-ce exactement El-Azhar ?
El-Azhar est une des grandes universités traditionnelles du monde arabe. À l'époque où il l'a fréquentée, elle avait encore sa forme ancienne, bien qu'ayant subi quelques légères modifications du temps des Khédives. Elle représentait vraiment un transfert des temps anciens, une formation dont il a su voir les faiblesses.
Mais une formation religieuse, et on voit avec étonnement que les textes les plus récents que l'on apprenne sont du XVIIe ou du XVIIIe, ce qui paraît d'une audace.
Eh bien, il y a naturellement le respect de l'antique. C'était, car elle a bien changé depuis, elle a subi des réformes très profondes en 1930 et après. Elle était surtout une université théologique. Et les autres sciences étaient des servantes de la théologie, comme ça a été le cas chez nous à d'autres époques.
Les autres sciences étant la grammaire, le droit.
La grammaire, la philologie, le droit, etc. Et même l'éloquence, la rhétorique. Accessoirement la littérature, accessoirement l'astronomie. Mais tout cela convergeant vers la meilleure intelligence des textes dogmatiques de la religion.
Mais pas du tout insérée dans la vie moderne.
Non, elle ne l'était pas, au moins quant à ses contenus. Parce que quant à la formation humaine qu'elle donnait, on ne peut nier qu'elle ne tint une place extrêmement importante, très profonde, dans le peuple égyptien et dans le peuple musulman en général. El-Azhar constituait un centre de rayonnement très vrai sur la vallée du Nil et beaucoup plus loin encore, et se recrutait dans les couches les plus diverses de la société. Elle était, comme la très vieille Sorbonne ou certaines institutions monastiques, le seul moyen qu'il y eut, par exemple, pour un petit paysan de devenir un grand homme. Nous avons connu ça au Moyen-Âge, puisque tel petit paysan du Massif central a fini pape, et tel grand savant d'El-Azhar était un fils de tout petit cultivateur.
C'était donc finalement assez démocratique.
À la façon islamique, oui. C'était la vieille démocratie de l'islam.
Est-il exact, professeur Berck, de dire qu'en Égypte, la querelle des anciens et des modernes a commencé en 1908 ? Au moment de la fondation de l'université.
Je crois qu'elle s'est posée bien avant, dès le moment même où les premières notions occidentales d'un Occident véhiculé par la révolution industrielle ont commencé à s'imposer à l'Égypte. Et il faut faire crédit à l'Égypte, d'ailleurs, d'avoir ressenti ce message dans toute sa nouveauté, dès l'expédition de Bonaparte et même avant. Nous avons des témoignages d'époque qui nous le disent très précisément.
On a parlé à propos de Tausheim, et lui-même dit, écrit qu'il a soulevé la haine, d'un attentat qu'il aurait commis et qui se situe en 1926. Qu'est-ce que cet attentat ?
Oui. J'ai parlé des mérites de l'université d'El-Azhar sous sa forme ancienne, laissant le soin à Tausheim de décrire ses faiblesses et même ses vices. Ils étaient nombreux. L'attachement au passé, l'attachement à la lettre, bref, un certain nombre de choses contre lesquelles certains réformateurs religieux au début du siècle et à la fin du dernier siècle, Cheikh Abdou par exemple, ont cherché à lutter sans avoir un succès total. Et ce qui a bien montré ce passéisme au moins relatif dans la culture azaharienne, ça a été la réaction d'El-Azhar au livre, en effet attentatoire, et c'est un très beau mot, qu'il a écrit sur la poésie jahilite, sur la poésie anti-islamique. La poésie anti-islamique constitue l'un des deux trésors que porte avec lui tout arabe. Le premier est bien entendu transcendantal, c'est le Coran, c'est le texte révélé. Et l'autre, d'un tout autre ordre, bien entendu, et même d'un ordre contraire au premier, à beaucoup d'égards, c'est la poésie anti-islamique. Une poésie qui, même lorsqu'on la lit en traduction, nous émerveille. Eh bien, Taha Hussein, qui revenait d'Europe, où il avait pris contact avec certaines méthodes du criticisme occidental, et même de l'hypercritique occidentale, avec un Bédier, par exemple, ramenant la chanson de Roland à des cantilènes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la querelle sur l'existence d'Homère, très impressionné donc par ses droits de la critique, apporter cette lucidité nouvelle sur ce vieux matériel poétique. Et notamment sur le plus grand et peut-être le premier de ces poètes, à savoir le roi errant Imru al-Qais. Le paradoxe, à l'époque, a été que les gens des Lazars, qui n'avaient en rien à se sentir concernés par une querelle purement philologique et littéraire, ont considéré, comme nous dirions aujourd'hui, que l'islam était un tout, comportant également la croyance dans ses poètes, même, chose paradoxale, si ces poètes avaient précédé l'islam ou même lui avaient été ennemis, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre eux. Je sais bien qu'on lui a cherché querelle sur quelques menues expressions où on l'accusait d'avoir un peu titiller de trop près le texte coranique. Mais le fond de la question n'en est pas moins ce paradoxe étonnant de voir un corps religieux prendre fait et cause pour des poètes païens. Pourquoi ? Parce qu'au fond, derrière la querelle des poètes, ils s'en prenaient tout simplement à l'esprit critique et à la rationalité dont Taha Hussein se faisait d'emblée le messager le plus décisif dans le monde arabe et à l'échelle de tout l'Orient.
C'est d'ailleurs très curieux cette étiquette que l'on peut accrocher à son nom de rationaliste.
Mais je crois qu'il la mérite. Je pense que toute sa vie a été un combat pour la raison et même un combat poussé assez loin pour montrer que la raison englobait des valeurs. Cette raison n'était pas sèche. Cette raison était accessible non seulement, disons, aux rationalistes incroyants, mais également aux rationalistes croyants qu'était Taha Hussein.
Professeur Berck, l'année prochaine au Collège de France, vous allez consacrer vos cours, à Taha Hussein. Comment allez-vous les faire ? Quelle est la construction ? Les gens modernes diraient la structure de ces cours. Pourquoi avez-vous choisi Taha Hussein ?
Vous me demandez en quelque sorte des secrets de fabrication, dont les professeurs, et notamment ceux du collège, sont fort avares. En général, ils pensent à leur cours prochain, au cours des vacances. Mais je dois dire que j'ai déjà pensé à ce cours sur Taha Hussein, car je pense que je devais, à la ligne générale de mes études sur le monde arabe, sur l'islam et d'une façon générale sur la décolonisation du monde, de consacrer une attention particulière à cette grande conscience et à cette grande voix. Je crois que je commencerai par une étude biographique pour essayer de camper cette figure dans les diverses Égyptes qui se sont succédées, si je puis dire, autour de lui. Puis, j'attaquerai, à travers lui, le cycle prophétique, en comparant à ses ouvrages sur le premier islam, les ouvrages d'autres Égyptiens célèbres, tels que Hussein Heikel, car il ne faut pas confondre, Aqad et quelques autres plus récents, qui relisent à leur tour le Coran, et les grands faits du cycle prophétique selon des optiques nouvelles. J'essayerai d'aborder tout cela et de montrer à la fois l'originalité de Taha Hussein et ce qu'il peut avoir en commun avec les autres et, j'allais dire, avec nous-mêmes. Car, bien entendu, au-delà des problèmes de spécialité, ce sont des valeurs générales qu'il mettait en jeu.
Vous considérez Tao Sein non seulement comme un grand écrivain égyptien, mais comme un très grand écrivain arabe, peut-être le plus grand.
Je ne distingue pas. Que mes amis égyptiens me pardonnent, mais provisoirement au moins, et sur ce plan littéraire, et tout en faisant la part, sa part à l'égyptianité regorgeante de Taha Hussein. D'ailleurs, le mot, il l'a employé lui-même souvent, le terme de Misriya, qui signifie l'égyptianité. Je crois que, surtout en posant cette discussion sur un plan littéraire, sur le plan de l'écrit, il ne peut être dissocié de l'ensemble arabe. C'est en tant que doyen des lettres arabes qu'il était défini jusqu'à la fin de sa vie. On ne disait pas le doyen des lettres égyptiennes, on disait le doyen des lettres arabes. Et le rôle énorme qu'il a joué dans tout le monde arabe, depuis l'Euphrate jusqu'à l'Atlantique, le montre surabondamment.
Mais parlez-nous de ce rôle.
Eh bien, ça a été... C'est très difficile de vouloir le définir en quelques mots. Disons, tout d'abord, un charme formel. Charme, dans toute la puissance du terme, une sorte d'enchantement. L'enchantement qu'un style arabe, de très grande tenue, en liaison directe avec les plus grands modèles du passé, put avoir incorporé à la fois une pensée et même des modes de formulation, si vous voulez, pour situer les choses, d'Anatole France. À beaucoup d'égards, d'ailleurs, je pense qu'Anatole France était un des auteurs qu'aimait Taha Hussein, et très souvent dans sa manière d'aborder les problèmes, et voire même dans le charnu de la phrase, dans cette sorte d'équilibre sans cesse rompu, sans cesse retrouvé. C'est le style, c'est un style d'humanisme, tranchons le mot, d'humanisme gréco-latin. Car nous touchons là une des positions constantes de Taha Hussein, il n'a jamais dissocié son arabité du méditerranéisme. Pour lui, la culture arabe était une variété des cultures de l'Ancien Monde. Je ne sais pas s'il aurait dit, comme je l'ai commis moi-même, que l'islam avait été une Byzance du Sud. Sur ce plan, je crois que le croyant aurait sévèrement discuté cette formule. Mais sur le plan de la culture et de la langue, je crois qu'il aurait accepté cette formule. Autrement dit, l'arabe était une des grandes langues du monde classique. Le grec, le latin et, selon lui, aujourd'hui, le français. L'arabe ayant le mérite, peut-être, d'avoir fait le lien entre l'antique et le nouveau, que n'ont pas fait le latin ni le grec ancien. Première attirance, n'est-ce pas ? Et la seconde, c'est ce libéralisme rationaliste dont nous parlions tout à l'heure. Je crois que c'est sous ces deux angles que le message de Taha Hussein a été reçu par les autres et par son temps. Je pense aussi que c'est par là que ce message sera encore écouté et agissant.
Il faut dire que c'est tout à fait le contraire d'un fanatique.
Absolument. D'ailleurs, économisons le mot fanatique.
Professeur Berg, vous avez écrit que l'avenir de la culture en Égypte de Taha Hussein restera l'un des plus beaux textes prospectifs qui ait inspiré l'Orient.
Oui. Nous nous apercevons aujourd'hui, après ce livre, longtemps après ce livre, que la catégorie culturelle n'est pas moins importante dans les pays, dans l'histoire, que la catégorie économique et politique. Au fond, le grand jeu, le vrai jeu, c'est celui de la culture, de sa survie, sauvegarde et de son renouvellement. C'est exactement sous cet angle que Taha Hussein a écrit en 1939 ce livre précurseur, qui n'a paru d'ailleurs qu'après la guerre, n'est-ce pas, quelques années après. Je crois qu'il l'a écrit au cours de vacances qu'il passait dans la montagne, dans les Alpes. C'est un très grand livre que j'ai eu la curiosité de comparer à d'autres bons livres qui ont été écrits sur le même thème. Par exemple, le livre du doyen Jamil Saliba, un Syrien. Le livre du docteur Abdeddaïm, un autre Syrien. Le livre plus récent du docteur égyptien Zaki Naguib Mahmoud, qui porte à peu près sur les mêmes thèmes, qui est aussi un plan de reculturation du monde arabe.
Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan? Parce que mais nous ne lisons pas l'arabe.
Justement, les ayant comparés, je dois dire sans aucune complaisance que le meilleur était celui de Taha Hussein. Le plus ample, le plus profond, et finalement celui qui tient le mieux encore sur ses pieds après tant d'années.
Mais pouvez-vous nous en donner les idées générales?
C'est toujours ce débat de la modernité et de l'authenticité. Ce sont des mots que l'on peut aujourd'hui trouver ressassés, mais il a fallu bien du temps pour qu'on s'avisât que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Tous ceux qui parlaient d'authenticité étaient en général des réactionnaires, n'est-ce pas, qui confondaient l'authenticité avec la continuité ou même le traditionnalisme, le passéisme. Beaucoup de modernistes pensaient que la modernité faisait table rase, comme on dit. Eh bien, c'est faux. Il n'y a pas de modernité en l'air et il y a une circulation des valeurs et un renouvellement des valeurs à travers toutes les phases d'une identité collective. Et c'est cela que sont les peuples et les cultures. La clé, donc, des problèmes de notre époque, comme c'était la clé des problèmes de l'Égypte de 1939, c'est d'essayer de concilier, dans une certaine mesure, l'authentique et l'innover, même. Pas seulement l'emprunter, non, l'innover.
Oui, garder toute sa culture, s'ouvrir aux autres.
Oui.
Et être authentique plus que passéiste.
Absolument.
Et Taha Hussein, c'est aussi... Enfin, je ne sais pas de quoi il ne s'est pas occupé, de qui il ne s'est pas occupé. Quel est l'esprit des nouvelles qu'il a intitulé Les Misérables sur Terre?
Eh bien, en effet, c'est une carrière étonnamment variée qui a abordé à peu près tous les genres. Sauf peut-être un à ma connaissance... Mais on me dit qu'il l'a également abordé, et je m'excuse là-dessus de mon ignorance, à savoir la poésie. Il a été également poète. Le contraire m'aurait étonné, mais j'avoue n'avoir pas lu sa poésie. En revanche, son œuvre de romancier, d'essayiste, d'islamologue, de sociologue ou d'observateur critique de son temps est une œuvre très connue, et dont les écrits se comptent par dizaines. Vous faisiez allusion à ces nouvelles, Les Misérables sur Terre. C'est une suite de nouvelles qu'il a écrites à la fin d'un monde, à savoir au moment où l'Égypte traditionnelle, l'Égypte royale, agonisait. Et l'on y trouve à peu près tous les thèmes qui seront ensuite repris sous une autre forme, par la révolution nassérienne, qui d'ailleurs, je crois, n'a pas rendu hommage de ses emprunts à Taha Hussein. Il écrivait à la même époque un ouvrage que je considère pour ma part pour l'un des plus forts, à savoir le miroir de la conscience moderne. Mir'at Damir al-Hadith, c'est une étude en profondeur des problèmes conceptuels et moraux qui se pose à l'Égypte de son temps. C'est un de ses livres les plus importants et il serait bon de le traduire en français.
Ce qui est très curieux quand on lit Taha Hussein, c'est qu'on ne peut pas l'imaginer âgé. C'est tout à fait impossible. Est-ce qu'on pouvait encore, à 84 ans, le considérer comme un jeune homme engagé dans la lutte entre, disons, les anciens et les modernes, pour ne pas nous fâcher avec la vieille mosquée?
Eh bien, mais je crois qu'il était en fait engagé dans cette lutte. Je crois que les deux parties avaient un peu étouffé émoussé leurs aspérités et évité les combats trop directs. Mais de temps en temps, à l'occasion d'une préface, à l'occasion de quelques mots dits à la radio, on sentait reparaître l'âpre polémiste de la jeunesse, qui restait fidèle à ses positions, ses adversaires aussi restaient fidèles à leurs positions.
On peut dire en conclusion peut-être que c'est l'image même de l'homme jeune qui est toujours dans l'avenir.
Il avait gardé cette jeunesse. En un sens, la jeunesse de sa conscience devait beaucoup à la permanence de sa voix. Ce flot de style arabe, à la fois fidèle et innovateur, et qu'il a inauguré, ce flot l'a porté jusqu'à la fin de sa vie. Et en vertu des liens très profonds qu'il y a chez un grand écrivain entre le verbe et la pensée, je crois que cette jeunesse respective s'est confortée. La voix a conforté la conscience et la conscience a entretenu la jeunesse de la voix.
Monsieur Moniste à Hussein, vous venez d'entendre le professeur Berck, mais peut-être avez-vous envie de parler avec lui de votre père et de son œuvre.
Mais certainement, je remercie d'abord le professeur Berck de cette merveilleuse compréhension qu'il a montrée à l'égard de l'œuvre de mon père, ce qui ne m'étonne du reste pas du tout. Mais il y a un point qu'on n'a peut-être pas tout à fait abordé, c'est le côté extrêmement, comment dirais-je, Taha Hussein, homme d'action. Évidemment, écrire des livres, c'est une action, c'est une merveilleuse action, mais en plus de tous les ouvrages qu'il a pu écrire, qu'il s'agisse des romans, des essais critiques ou des essais historiques, il y a chez lui un créateur assez puissant. Et ce qui m'a toujours frappé, c'était précisément qu'il créait dans la joie et dans l'optimisme. Et cet homme qui, dans certains cas, était pessimiste, et il avait beaucoup de raisons pour cela, surmonter cela par cette création constante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur.
Eh bien, je pense que la créativité, qui porte un nom en arabe, on pourrait le dire en arabe, et même d'un mot moins lourd qu'en français, ibda,
ibda, oui,
la créativité, oui. C'est le bien le plus précieux des êtres et des sociétés. Et vu à distance, on pourrait dire que Taha Hussein a représenté sur beaucoup de plans la créativité égyptienne et arabe. Et c'est probablement ce qui lui a donné cette constance et finalement cette joie qui lui a permis de surmonter beaucoup de déceptions.
Excusez-moi, mais je voudrais savoir ce que vous entendez par créativité arabe. Est-ce que la créativité n'est pas la même partout, chez tout le monde ?
Naturellement, mais la créativité dans le domaine des Arabes, n'est-ce pas ? De même que nous dirions que tel écrivain est créateur en France. Eh bien, dans le domaine des Arabes, en passe de rénovation, de modernisation, Taha Hussein a représenté l'un des instants, et ils sont assez rares, de la créativité. C'est oui, un homme qui a créé, qui a innové.
C'est cela. Et si, au fond, je crois que le mieux, ce serait de donner quelques exemples concrets qui feraient comprendre, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Vous avez parlé, monsieur le professeur, de la gratuité de l'enseignement en Égypte, qui lui est due, c'est exact. Mais un exemple qui, moi, m'a toujours beaucoup frappé, c'est la création de l'université d'Alexandrie. Il a créé cette université en pleine guerre, au moment où les armées allemandes étaient à 70 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie. On entendait le canon à Alexandrie, mais pendant ce temps-là, mon père créait faculté par faculté son université, sans se laisser décourager ou sans dire « les temps ne sont pas propices, nous attendrons ». Non, non, il l'a créé au milieu de tout cela, très calmement, si j'ose dire. Un autre exemple, c'est la chaire de littérature arabe qu'il a créée à l'université d'Athènes. Voilà ce côté, n'est-ce pas, très enthousiaste, qui tout à coup le prenait, il disait « mais il faut faire quelque chose ». Et en général, il y arrivait, de même lorsqu'il a voulu créer un institut d'études arabes à Madrid. Il voulait qu'il y eût là une reprise par les Arabes de tout un patrimoine arabe qui existait en Espagne. Il s'est heurté, comme toujours dans ces cas-là, beaucoup de difficultés du côté du gouvernement, pour le financement, pour ceci, pour cela, mais il y est arrivé.
Et cet institut a très bien marché.
Oui.
Et a déjà à son actif une œuvre assez considérable.
C'est cela, oui.
Dans d'autres cas, au contraire, le projet n'a pas pu se réaliser.
Bien sûr.
Je dois à la vérité de confesser ici qu'à un certain moment, Taha Hussein, dont les sentiments à l'égard de la France ont toujours été des plus chaleureux, a voulu créer un institut égyptien à Alger, et qu'une opposition locale s'est mise en travers. Et cette grande innovation n'a pas été faite. Et c'est un grand malheur. On pourrait également, dans une vie aussi pleine d'actions, parler de ces luttes politiques, de ces luttes universitaires. Ce sont des aspects dont, d'ailleurs, l'histoire et même la controverse se sont emparés.
Oui.
Chose curieuse, Taha Hussein, lorsqu'il a écrit son livre sur la poésie anti-islamique, n'a pas été soutenu par ceux que l'on appelait à l'époque les progressistes égyptiens. C'est un fait, le Wafd, qui avait des aspirations au gouvernement, des aspirations très justifiées, et ce grand homme à sa tête, qui était Zarloul, ne l'a pas soutenu. Ceux qui l'ont soutenu, c'est un autre parti, un parti en demi-teinte, de gens plus modérés sur le plan politique, mais qui, sur le plan intellectuel, avaient à cette époque les positions les plus tranchées.
C'est exact. Il a souvent été, dans cette lutte politique et universitaire, il a souvent été très seul. Et je crois que c'est le fait de beaucoup de grands hommes, la solitude. Mais il avait également, car il était à la fois très orgueilleux et très modeste, il avait conscience de cela. Et une des choses les plus émouvantes qu'il ait dites, c'était 2 jours avant sa mort, il revivait un petit peu son passé, comme s'il sentait que c'était vraiment la fin. Et il a dit cette phrase à ma mère, avec un petit haussement d'épaules, « Quand même, avoir si souvent confié le gouvernail à un aveugle, a-t-on idée ?» Thank you.
C'était Hommage à Taha Hussein par Hélène Tourner, avec la participation de Maurice Couve de Murville, Moïniste Taha Hussein et Jacques Berck. Texte lu par Jean Gasto. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 mars 1974. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté à la page des nuits sur franceculture.fr.